Bonjour à chacune et à chacun. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me fait plaisir de vous revoir. Voilà, il est un petit mot qui existe dans presque toutes les langues. Et bien qu'il soit court, il est porteur d'une dimension telle qu'il peut, à lui seul, modifier tout ce qui vient de le précéder. En français, ce mot tient en quatre lettres. C'est une conjonction de coordination qui introduit en contraste une opposition ou une restriction. C'est le mot « mais ». M-A-I-S. Premier point de l'introduction. Deuxième point de notre introduction. Lorsqu'un prédicateur choisit de parler d'un personnage biblique, la plupart du temps, c'est pour en faire un modèle, un exemple inspirant. Et on pense ici à toute une série de portraits au rang desquels figurent, je vous laisse imaginer, Abraham, Joseph, David et j'en passe. Dans cette catégorie, on peut dire que le Christ serait en quelque sorte le porte-drapeau, la figure de proue. Ce qui, en revanche, est moins commun, c'est d'utiliser une de ces icônes de la parole de Dieu, non comme modèle, mais à l'inverse, comme anti-modèle. Quelqu'un à ne pas imiter, bref, un contre-exemple. C'est très précisément ce que nous allons faire ce matin. Et au risque de bousculer les plus sensibles, nous allons nous arrêter quelques personnes, tenez-vous bien, sur le roi Salomon. Au fond, notre réflexion va s'organiser à partir d'une question toute simple. Si nous avions à faire le procès de ce roi, que plaiderions-nous ? Coupable ou non coupable ? Salomon. Voilà un personnage connu de chacune et chacun d'entre nous. Et quand on dit son nom, on pense à la sagesse que Dieu lui a donnée. On pense à sa rencontre avec la reine de Saba. Mais nous avons aussi tous en mémoire sa gloire et la fortune extraordinaire qui a été accumulée par ce fils de David. Cependant, dès le tout début de son règne, il y a deux ou trois trucs qui clochent. Dès qu'il devient roi, Salomon fait quelque chose que son père n'eût jamais consenti. Il commandite le meurtre de son frère Adonias. Ajoutez à cela que ce jeune monarque avait la coutume d'offrir de l'encens et des sacrifices sur les hauts lieux. Mais enfin, cela mis à part, il faut bien l'avouer, ce héros correspond à une sorte d'idéal. Un idéal qui tiendrait en quatre mots. Pouvoir, succès, gloire et fortune. Petit 1, le pouvoir. Un roi, chapitre 5. Salomon dominait sur tous les royaumes. Il exerçait son pouvoir sur tous les rois. 2, le succès. Chapitre 5, verset 12, son nom était connu dans toutes les nations environnantes. 3, la gloire. 2 Chroniques, chapitre 9, le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre. Tous les rois de la terre recherchaient Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. 4, la richesse, 1 Roi chapitre 10, rien n'était en argent au temps de Salomon, car on n'en faisait aucun cas. 1 Roi chapitre 9, le roi rendit l'argent à Jérusalem aussi commun que les pierres. Voilà, à grands traits, esquisser le profil de notre personnage. Mais lorsqu'on prend le temps de se pencher un peu plus longuement sur son parcours, on se rend compte qu'à deux reprises, Dieu s'est directement adressé à lui. Et ces deux interventions sont chacune soumises à condition. Nous allons en parler, et vous verrez que c'est dans la deuxième intervention divine qu'apparaît le petit mot de quatre lettres dont nous avons parlé au début. Première intervention divine, en Roi chapitre 6, verset 12. « Si tu suis mes prescriptions et les mets en pratique, alors je demeurerai au milieu d'Israël, mon peuple, et ne l'abandonnerai pas. » La deuxième intervention de Dieu arrive juste après que Salomon ait consacré le temple qu'il avait fait construire. 1 Roi chapitre 9, verset 1. « Si tu marches avec droiture, si tu observes mes prescriptions, alors j'établirai ton trône sur Israël pour toujours. Mais si vous vous détournez, si vous servez d'autres dieux pour vous prosterner devant eux, alors je retrancherai Israël de la terre et quiconque passera devant cette maison sera atterré. Quand tout vous réussit, quand tout ce qui vous arrive est superlatif, très vite, une perte des limites de la réalité s'installe en vous. Salomon se retrouve propulsé au-dessus de tous, au point d'en oublier que cette opulence et que cette surdimension étaient soumises à condition. Mais, tout porte à croire que succès, gloire et richesse sont devenus une norme pour ce roi légendaire. Cependant, insidieusement, sournoisement, les mécanismes du déclin commencent à se mettre en place. Pourquoi ? Précisément parce que Dieu avait dit « mais ». Admettons que Salomon ait été aveuglé par une sorte de griserie. Il n'empêche qu'un facteur moins évident, qu'on pourrait qualifier de secondaire, a sans doute contribué à l'accélération de cette chute à venir. À quoi faisons-nous allusion ? Nous essayons de souligner que ce grand roi semble n'avoir jamais connu de véritable traversée du désert. Il n'est mentionné nulle part dans la Bible, en tout cas à ma connaissance, qu'il ait eu à connaître les terribles épreuves personnelles que David, son père, avait rencontrées. Souvenez-vous tout à l'heure, très rapidement, nous avons fait cette petite liste de modèles, Abraham, Joseph, Moïse, David et Jésus. Tout cela, tous, sans exception d'une manière ou d'une autre, ont eu et connu des traversées du désert. Tous, mais pas Salomon. Alors loin de moi, très loin de moi, l'idée de vouloir ici faire l'apologie de l'épreuve ou du désert. Reste que ces traversées-là nous mettent aux prises avec la réalité. Le désert, c'est terrible. Ça nous rabaisse. Ça nous humilie. On y a faim. On y a soif. Et au-delà de ça, l'épreuve et le désert, ça vous fait fondre et ça finit par vous débarrasser de bien des scories. Or, il se trouve que vraisemblablement, Salomon n'a jamais eu à fondre. Et que par conséquent, il n'a pas connu d'occasion puissante d'être débarrassé de certaines de ses scories. Et cela explique en partie ce qu'on pourrait appeler la théorie du grand écart. D'un côté, avec une étourdissante acuité dans un exercice de virtuosité intellectuelle incroyable, Salomon nous offre un discours magistral pétri d'une sagesse en tout point supérieure. Et de notre côté, peu à peu, il va s'en distancer pour finir par se comporter à l'inverse de son propre enseignement. Alors, pour illustrer cette théorie du grand écart, amusons-nous à établir deux listes antagonistes. Dans la liste 1, nous allons disposer, placer des écrits autographes du roi Salomon. Et en vis-à-vis, dans la liste 2, se référant à ces écrits, des extraits des livres des rois et des chroniques. Vous avez bien compris le principe. Alors on y va. Liste 1. Parole de Salomon. Proverbe chapitre 23 et Ecclésiaste 5. Ne te fatigue pas à devenir riche. La richesse se fait des ailes et s'envole comme l'aigle vers le ciel. Celui qui aime l'argent n'est jamais rassasié par l'argent. Liste 2, 2 Chroniques 9. Le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de 666 talents d'or, outre ce qui provenait des prospecteurs, des marchands, de tous les rois d'Arabie et des gouverneurs du pays. Liste 1, paroles autographes. Proverbes 4 et 10. Ne sois pas oublieux. Ne dévie ni à droite ni à gauche. Celui qui oublie les avertissements s'égare. Que la fidélité et la loyauté ne t'abandonnent pas. Liste 2. 1 Rois, chapitre 11, verset 4. Au temps de sa vieillesse, les femmes de Salomon inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Salomon suivit Astarté et Milcom. Il bâtit sur la montagne qui était en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'horreur de Moab, et pour Molech, l'horreur des Ammonites. Liste 1, parole de Salomon, crains Dieu et observe ses commandements. Liste 2, 1 Roi chapitre 11, le Seigneur se mit en colère contre Salomon. Mais Salomon n'observa pas ce que le Seigneur lui avait ordonné. Dernière comparaison des deux listes. Liste 1, écrit autographe. Les lèvres de l'autre femme mènent tout droit au séjour des morts. Éloigne d'elle ton chemin. Garde-toi de la femme mauvaise, ne convoite pas sa beauté. Ne te laisse pas prendre à ses regards, car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Sa maison, c'est le chemin qui descend vers les chambres de la mort. Liste 2. 1 Roi, chapitre 11, verset 1. Le roi Salomon avait aimé beaucoup de femmes. De femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hittites il eut 100 princesses pour femmes et 300 concubines. Dieu avait dit, mais Salomon aimait éperdument les femmes. Il en dépendait comme on dépend d'une drogue. Aujourd'hui, on appelle ça une addiction, c'est-à-dire une consommation non maîtrisée dont la pratique nous enchaîne jusqu'à l'esclavage. Salomon avait gardé une tendance naturelle, une scorie, qui avait fini par lui faire oublier que Dieu avait dit « mais ». Lorsque Dieu nous élève, nous sommes pour partie responsables de nous maintenir coûte que coûte au niveau où il nous a élevés. J'ai déjà plusieurs fois ici eu l'occasion de dire que ma mère aimait à citer Galates 6, verset 7. On ne se moque pas de Dieu. Alors dire que l'on ne se moque pas de Dieu, d'une certaine façon, c'est affirmer que si effectivement il y a le Dieu des grâces, des abondances, du pardon, de la bienveillance, du salut en son Fils, il n'en reste pas moins le Dieu qui pose des si et qui dit « mais ». Les distinctions si particulières qu'avait reçues Salomon lui donner obligation de maintenir le niveau de son intégrité, de sa fidélité et de sa constance vis-à-vis de son Seigneur. Pourquoi ? Parce que faillir aussi et aux conditions que pose Dieu, c'est s'exposer à deux types de conséquences. Des conséquences personnelles et des conséquences collatérales. Or, ce qui, sur ce point, était valable dans cette antique époque, l'est toujours aujourd'hui. Dieu n'admet toujours pas, ne tolère toujours pas l'existence d'idoles ou d'addictions chez celles qui et ceux qu'il a rachetés au prix du sang de son Fils. Grand 1, les conséquences personnelles. Nous l'avons dit. L'addiction de Salomon pour les femmes ne lui est pas tombée dessus ex nihilo. C'était dans sa nature. Dit autrement, il y avait chez lui un terrain favorable à cela. Or, il se trouve que toutes et tous, nous avons nous aussi des terrains favorables à quelque chose. Et puis, il faut le dire, un petit relâchement spirituel, un petit coup de mou au niveau de la foi, un creux dans notre vie de prière, et hop, nous voilà dérapant au gré de nos tendances naturelles. Certes, c'est une pure grâce de tenir ferme dans la foi, mais pour autant, nous restons concernés et impliqués dans le maintien de ce lien à notre Seigneur. Le chrétien n'est pas un consommateur passif. Il doit au quotidien faire preuve d'implication personnelle. Il n'est pas de facto dispensé de lutte ou de combat. J'ai lu assez récemment une biographie qui m'a beaucoup intéressé à propos d'un personnage haut en couleur. Ce fut une vedette, allez, on peut dire une star, de la Bouvines camarguaise. Et son nom va dire quelque chose à ceux qui connaissent un peu le pays du Quélard. Il s'agit de Fanfonne Guilherme. Fanfonne Guilherme. Cette femme a consacré sa vie à sa passion. Elle a vécu pour sa manade, ses taureaux et ses chevaux. Et très tôt, elle a su s'entourer de gardiens très expérimentés. Or, comme dans tous les métiers, on trouve dans celui de l'élevage des taureaux, vous savez, de ces dictons qui illustrent bien la réalité du savoir-faire quotidien, de ces petites phrases qui collent bien au terrain professionnel. Parmi toutes ces maximes qui sont inscrites dans ce petit bouquin, il en est une qui a drôlement accroché mon attention et que je voulais vous partager. Les gardiens de Camargue disent ceci. Un taureau qui s'échappe se dirige toujours vers la mer. Dès que nous prenons de la distance vis-à-vis du Seigneur, nous nous dirigeons toujours vers des lieux de noyade. Les mains du Seigneur représente pour nous ce que sont au taureau de Camargue des clôtures de protection. Salomon n'aurait jamais connu la déchéance s'il avait pris en compte les mets que Dieu lui avait adressés. Alors, question, quelles seraient pour nous les conséquences personnelles de la transgression? Personne, mieux que l'apôtre Pierre, n'a répondu à cette question. Deuxième épître de Pierre, chapitre 2, verset 20. En effet, si après avoir échappé aux souillures du monde par la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, il se laisse à nouveau prendre et dominer par elles, elles, ce sont les souillures du monde, leur condition dernière est pire que la première. Il leur est arrivé ce que dit le proverbe, le chien est retourné à son vomissement et la truie à peine lavée va se vautrer dans son bourbier. Voilà ce qu'on pouvait dire de façon assez générale sur notre grand 1, les conséquences personnelles. Quelques mots sur les conséquences collatérales. C'est notre grand 2. Le péché de Salomon a eu des conséquences terribles sur le peuple dont il était le roi. À sa suite, le royaume a été disloqué, divisé et livré à des conquérants idolâtres dont Israël a fini par adopter les dérives. C'est Salomon qui a été à l'origine de cette décadence. Il a été le détonateur d'un chaos, d'un véritable effondrement et d'une déroute sans précédent. De la même manière, que nous le réalisions ou non, que nous en soyons conscients ou pas, notre témoignage est toujours une référence pour celles et ceux qui nous sont proches. Toute proportion gardée, se laisser glisser au reniement et à l'abandon aurait pour nos familles et nos proches des conséquences tout aussi néfastes que celles engendrées par les manquements de Salomon. Songez qu'en parlant des siens, Jésus a dit « Vous êtes la lumière du monde ». Tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons, ou choisissons, prête à conséquence jusque et y compris chez celles de notre entourage qui sont hostiles aux engagements de notre foi. Grand 1, les conséquences personnelles. Grand 2, les conséquences collatérales. Grand 3, comment tenir ferme. Qu'aurions-nous pour tenir ferme aujourd'hui que n'avait pas Salomon à son époque? Si lui, dont la condition était en tout point supérieur à la nôtre, si lui n'a pas su éviter la décadence, comment donc ferions-nous pour être là-dessus plus grand qu'il n'a jamais été ? La réponse peut s'énoncer ainsi. Face à nos tendances, face à nos penchants naturels, notre force, notre réponse lumineuse, c'est Christ. Christ seul. C'est lui qui a dit « Rien ni personne ne vous ravira de ma main ». Ce à quoi l'apôtre Paul a rajouté « Je peux tout par celui qui me glorifie ». C'est par Jésus-Christ que nous sommes aujourd'hui plus que Salomon n'a jamais été. Nous l'avons lu tout à l'heure, Paul nous l'a lu, c'est une grâce. Cela ne vient pas de nous afin que personne ne se glorifie. Et à cette phrase, dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14, Paul ajoute « Grâce soit rendue à Dieu qui nous entraîne toujours dans son triomphe, deux points, dans Jésus-Christ. » Alors, on risque de faire un peu recette de cuisine. Voici une série de 7 citations bibliques qui peuvent nous aider à rester vigilants et à respecter les mets du Seigneur. Je vous fais grâce des références, mais je pourrais vous les donner si vous le souhaitez après le culte. 7. 1. Chacun est esclave de ce qui le domine. 2. Que chacun d'entre vous n'entretienne pas de prétentions excessives. 3. Ne te crois pas trop sage. 4. Soyez sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Et puis les 3 dernières citations sont construites autour du verbe « veiller ». 5. Veillons et soyons sobres. 6. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant qui cherchant qui dévorer. 7. Veillez et priez. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Quelques mots avant de conclure. Alors, que dire de Salomon ? Est-il, oui ou non, un anti-modèle ? Un exemple à ne pas suivre ? Est-il coupable ou non coupable ? Il incombe à chacune et à chacun de poser son propre diagnostic, verdict. Mais pour ma part, je me garderai bien de l'accuser. Certes, on ne peut passer sous silence cette fin de vie désastreuse. Mais enfin, comment condamner celui que Dieu a distingué et somptuairement établi ? Comment d'un trait d'un seul effacer et faire oublier que Salomon est l'auteur de 3 livres de la Bible ? De plus, accuser ce roi n'équivaut à rien d'autre qu'à s'accuser soi-même. Car il existe aussi chez nous ce grand écart entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Si Salomon a couru à la catastrophe en ignorant sciemment les mets de son Dieu, que fais-je d'autre lorsque je m'échappe, sinon d'aller systématiquement et la tête la première, m'embourber dans les marécages du péché et courir à la noyade vers la mer de la perdition ? Et puis, de toute manière, qu'il s'agisse de Salomon ou de qui que ce soit d'autre, Dieu seul est souverain et nous n'avons pas pour mission de juger à sa place. Je crois que nous serions bien avisés de faire nôtre cet énoncé de l'apôtre Paul dans Romains 7, verset 24. Misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort ? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Sauveur. Conclusion. Le psalmiste a dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Et il est vrai que la plupart de nos réponses, de nos solutions, sont inscrites dans cette parole vivante de Dieu. Eh bien justement, il s'y trouve une courte formule qui, pour nous aider à respecter les mains du Seigneur, est d'une incroyable efficacité. Bien que se résumant à deux petits mots, elle constitue une vraie barrière de protection. Une protection contre nous-mêmes et nos tendances naturelles. Tout comme un abri face à ce lion rugissant qui rôde sans cesse autour de nous. Devinez qui est l'auteur de ce remède miracle. Je vous le donne en mille. C'est le roi Salomon. En deux petits mots, tout est dit. Et cette formule, très rapidement, nous l'avons déjà citée tout à l'heure, et la revoici. Crains Dieu. Crains Dieu. Amen.